Eh bien Antoine, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, un nouveau Par ici des sorties consacré comme tous les soirs, sauf le mercredi, donc à la poursuite de l'intégrale de Miles Davis. Et puis quelques nouveautés cette fois-ci du côté des Français. Et comme à l'accoutumée aussi, une ou deux découvertes, pas piquées des hannetons. Alors pour commencer, Miles Davis. Miles Davis, on l'avait quitté en 1953, alors qu'il était en Californie. Eh bien, on va le retrouver en 1954, mais avant cela, il s'est passé bien des choses, à savoir que bien en Californie, Miles a découvert qu'il n'était plus le premier trompettiste de jazz de la planète et même pas des États-Unis. Grand coup sur la cafetière, comme on dit. Et puis, pas de boulot, parce qu'en Californie, on l'attend pas. Donc il a un peu la déprime. Alors il se dit, qu'est-ce qui m'arrive, moi qui ai toujours été, avec mon aura, là, adulé par toutes les foules, jazzistiques ou pas jazzistiques du tout d'ailleurs. Eh bien il se met à réfléchir et il se dit qu'il faut prendre la décision qui lui semble la plus importante pour l'instant, c'est s'arracher à la dope. Alors il va consulter différents magazines parce que, bon, non pas pour se retirer de la dope, non, loin de là, c'est pas dans les magazines qu'on fait ça. Mais il est toujours friand un peu de voir un peu la presse people, comme on dit. Et la presse people du moment, eh bien, elle n'a plus qu'une idole. C'est tout simplement le boxeur Sugar Ray Robinson. Alors me direz-vous, quel rapport entre la boxe et Miles Davis? Eh bien, ça lui met un peu la puce à l'oreille et il va consulter ses magazines et voir que Sugar Ray Robinson, eh bien, il est sapé comme un ministre, il roule en décapotable et dans ces décapotables, il y a 3 ou 4 nanas qui ferait quand même pâlir de jalousie quelques top girls du moment. Et oui, c'est un peu ça ce qui inquiète Miles Davis. C'est que lui, il en est réduit à se trouver quelques jeunes femmes encore qui veulent bien l'accepter. Quelquefois, il leur pique un pot de pognon pour la dope, mais il se dit que ça ne peut pas durer, donc il va falloir trouver une autre solution. Alors il appelle papa et lui dit « Papa, qui est à Saint-Louis, je vais rentrer ». Et donc il va rentrer en décidant cette fois d'arrêter la dope. Alors Miles ne fait pas les choses à moitié. Autant dans la musique que dans la vie. Par conséquent, pour arrêter la dope, il n'y a pas 36 solutions. Il va s'isoler dans sa chambre. Il va y rester plus de 2 semaines sans en sortir. Il ne mange plus, il ne boit plus, il ne parle plus. Nuit noire complète, dans le noir absolu. Et au bout d'un certain temps, évidemment, ça fait quand même son effet, le sevrage. Et il considère que, eh bien, il se prend en... Le temps de se regarder dans un miroir, il s'aperçoit que bien dorénavant, il a les yeux plus grands, il a quand même une meilleure mine, et il se dit qu'avec un peu de chance, bon, ça va pouvoir refaire un peu la vie antérieure. Malgré tout, il se dit que retourner à New York dans l'immédiat, ça va être difficile. Alors il a aussi l'opportunité bien sûr de partir à Chicago, mais Chicago, c'est pas le truc qui l'attire. Los Angeles, il a goûté sans intérêt, il va donc s'exiler à Détroit. Alors là-bas, il va jouer avec quelques musiciens locaux. Ça durera pratiquement jusqu'à la fin de l'année 53. Et puis après, début 54, il décide de retourner à New York. Donc arrivé à New York, il va constater que, contrairement à ce qu'il pouvait croire, eh bien, New York, c'est plus que c'était, musicalement parlant. En effet, Charlie Parker, avec ses déboires de santé et ce que l'on connaît de la drogue, eh bien, le fait qu'il, parfois, il fait faux bond... Il n'assiste pas à ses prestations, il ne se rend pas dans les clubs, donc c'est plus vraiment le monsieur dont on parle dans tous les journaux et qui fait l'actualité du moment. Dizzy Gillespie, quant à lui, eh bien, il ne cesse de répéter des morceaux qu'il a enregistrés quelques années auparavant avec le même orchestre, mêmes arrangements. Par conséquent, c'est pas le top non plus. Alors Miles se dit eh bien, que oui, ça n'est fini du bebop, que la révolution bop est terminée. Et qu'il va donc falloir passer à autre chose, d'autant que le jazz West Coast commence à faire sa petite place dans l'oreille des amateurs de jazz, relayé en cela par un autre groupe qui lui aussi commence à faire parler beaucoup de lui, c'est le MJQ, le Modern Jazz Quartet, avec un jazz, on va dire, de musique de chambre. Dans Miles, il se rend bien compte que le bebop, terminé, il faut passer à autre chose. Alors il va contacter Alfred Lyon de Blue Note. Et il va lui dire qu'il a préparé des arrangements pour un quartet, comparativement au quintet avec lequel il va enregistrer. Alors Alfred Lion lui dit que bon, pas de problème, mais de qui sera composé ce quartet? Alors Miles, pour l'occasion, a repris pour la rythmique deux anciens compères, donc Perseus et Art Blakey. Et puis, arrivé d'un tout jeune gamin de 23 ans, qui va faire la révolution dans le domaine du jazz lui aussi, il a pour nom ce monsieur du jazz et du piano, Horace Silver. Pas moins que cela. Alors c'est vrai que plus tard, avec Art Blakey, ils feront les Jazz Messengers, tout ça c'est une autre histoire. On va rester avec Miles Davis pour l'instant. Et donc on va enregistrer dans ce studio Blue Note 6 compositions. On attaque carrément très fort. Et Miles, toujours fidèle à lui-même, eh bien, va commencer par attaquer avec une composition de Monk qui lui est chère et pour laquelle il a vraiment un attachement particulier. C'est Wild Unit avec, vous le constaterez, un Horace Silver, 23 ans seulement, mais fortement influencé par le jeu de Thelonious Monk. Thank you. Miles Davis Quartet, donc Well You Need, c'est extrait d'un album paru chez Blue Note portant comme titre volume 3 tout simplement. Donc il n'y a pas d'autre indication que cela et ça se déroule le 6 mars 1954. Alors la rencontre de Miles et Dora Silver s'est faite tout simplement parce qu'ils habitaient dans le même hôtel, dans la 25e rue. Et Miles est attiré par ce jeune pianiste, non pas tellement par son jeu de piano, mais surtout parce que bien Dora Silver dans sa chambre, un instrument qui fascine Miles, un monstre fait de touches blanches et noires, un piano. Et Miles en a de cure d'aller dans la chambre d'Dora Silver pour justement taquiner l'instrument. Il y passera des après-midi entières à essayer de maîtriser l'instrument, parfois avec... on va dire, une certaine facilité. D'autres fois, eh bien, c'est Dora Silver qui devra lui montrer toutes les astuces de ce fabuleux instrument. Il avait donc décidé d'engager ce jeune pianiste dans son quartet. Et il faut dire que ce fut pour lui une grande surprise et aussi une grande satisfaction parce que Dora Silver n'était pas n'importe qui dès son début. Et puis, il faut dire également que grâce à Miles, eh bien, Dora Silver, en 1954, parce qu'il fera une grille d'albums, chez Blue Note, chez Prestige, eh bien, sera élu pianiste de l'année. Pour l'heure, donc, on va retrouver le quartet dans une composition de Miles où Dora Silver, justement, se fend de quelques imitations monkiennes sur ce thème « Lazy Susan ». Lazy Susan, donc par le quartet de Miles Davis, dont je vous rappelle la composition, Percy Heath, Art Blakey et Aura Silver. Alors pour le thème suivant, la ballade It Never Entered My Mind, eh bien la rythmique a sorti vraiment le velours et les soieries pour laisser place au lyrisme de Miles Davis, donc par ce quartet, eh bien It Never Entered My Mind. Never Entered My Mind par Miles Davis Quartet. Et dire que, encore aujourd'hui, certains pensent que le jazz ce n'est que de la musique qui fait du bruit. Alors, je pense qu'il faut de temps en temps s'ouvrir les oreilles, parce que je crois que des morceaux comme ça, c'est à vous faire aimer le jazz, même si vous avez jamais entendu de morceaux de jazz. Ceci était un aparté, on va revenir à Miles Davis malgré tout. Et on va retrouver Miles, je vous le disais, il est un peu excédé, Miles, en rentrant à New York, parce qu'il s'est rendu compte eh bien, que la musique jouée par les Blancs de la West Coast est en train de prendre le pas un peu sur la musique des Noirs. Et ça, c'est pas quelque chose qui lui fait vraiment très plaisir. Il décide donc de faire valoir qu'il est, lui, le trompettiste number one du moment, raison pour laquelle il va interpréter ce morceau qui a pour titre The Lip, donc les lèvres. Et là, il va jouer staccato. Staccato, vous verrez ce que ça veut dire, donc c'est très facile à comprendre. Il est bien loin du jeu des trompettistes cool de la West Coast, histoire de remettre les pendules à l'heure, comme il le dit, et puis aussi de montrer à tout le monde qu'il n'est pas revenu pour faire de la figuration ou la copie d'une musique que pour l'instant, il n'apprécie guère. Par Miles Davis Quartet, The Lips. Thank you. Ça s'arrêtait brutalement, mais c'est ainsi dans l'album, nous n'y pouvons rien. Donc c'était par Miles Davis, The Lips. Alors effectivement, tout est dit. Miles a retrouvé le lyrisme, il a retrouvé le phrasé, la virtuosité, la sonorité. Tout est prêt pour qu'il devienne à nouveau le premier trompettiste de la scène jazz. Et puis il y a à ses côtés dans maintenant Horace Silver. Alors, vous me direz, qu'est-ce que cela a d'important ? Eh bien, tout simplement, c'est que Horace Silver a un jeu très particulier. On va le retrouver dans ce thème qui va suivre, Take Off, sous-titré Conception. Eh bien, Horace Silver, lui, de la main droite, il va dessiner des lignes mélodiques très blues, on va dire. Et puis, de la main gauche, quelques accords pour ponctuer le rythme. Quelques accords qui jusqu'à présent n'avaient jamais été utilisés. C'est ça, Horace Silver. Et ce style-là, eh bien, va marquer les esprits de bien, bien des pianistes. Et pendant quelques décennies, beaucoup s'inspireront de ce mode de jeu qu'avait inauguré ce jour-là, donc Horace Silver, avec ce Take Off. C'était donc Take Off par Miles Davis Quartet, et vous l'avez peut-être constaté si vous avez bien écouté, à un moment Miles n'arrive pas à vraiment terminer son solo, et heureusement Perseus se rend compte de cela, il reprend le flambeau suivi par Aura Silver, et tout cela se fait dans une ambiance bon enfant, et parce que Miles a décidé que dorénavant on enregistrerait sans faire de deuxième prise. Il a considéré que maintenant son talent est complètement éclos, et que sa musique, c'est il n'y a pas mieux. Et par conséquent, on fait ça d'un seul jet, et il arrive ce qu'il arrive. Voilà, c'est la nouvelle formule de Miles Davis, ce quartet, quintet, et on verra plus tard avec des formations un peu plus conséquentes. Alors, en quartet, effectivement, on est obligé de faire dans la simplicité, parce que les musiciens ne peuvent pas innover sans arrêt, et par conséquent, Miles va composer un thème qui deviendra un des thèmes favoris de bien des musiciens par la suite. Ce thème s'appelle « Wendo », et tout simplement, c'est basé sur trois petites notes que Miles va répéter et qui vont faire de ce thème-là vraiment le thème favori des musiciens du moment. Avec donc, ça va terminer la séance d'ailleurs avec ce morceau-là. Avec, je rappelle, donc la rythmique qui est présente ce 6 mars 54, donc Perseus, Art Blakey et Aura Silver pour ce Wendo. Thank you. Et bien voilà, ce Wendo terminait la séance de ce 6 mars 54. Ce qui est important, c'est que le nouveau Miles est arrivé et avec lui, une nouvelle étape dans le domaine du jazz va apparaître. Un jazz dont beaucoup s'inspireront par la suite et Miles va redevenir le premier trompettiste qu'il était. Et cela va durer quand même au moins une dizaine d'années. C'est vous dire la qualité de ce jeune homme qui n'a, quand on pense qu'on pourrait croire, que 27 ans à cette époque-là. Il est encore un tout jeune gamin par rapport à la carrière qu'il attend. Mais il a déjà imprimé très fort ce qu'il allait faire et ce qu'il allait devenir. Et pour ne rien vous cacher, 4 jours après seulement, eh bien il retourne en studio chez Prestige parce que Bob Woodstock s'est dit que là, cette fois, le Miles nouveau, il lui fallait dans son label. Et par conséquent, Miles, qui n'a cure des exclusivités de label, se dirige donc 4 jours après chez Prestige. Mais tout ça, ce sera pour demain. Et ça va inaugurer la série des fameux albums Waking, Smoking, Cooking et Cookie et Cookie. Voilà, ce sera donc pour demain avec à nouveau Miles Davis intégral. Alors maintenant, on va aller du côté d'une découverte, d'une chanteuse qui, sous son aspect américaine moyenne, on va dire, vraiment, vous savez, quand elle est sur, on la voit sur la photo de la pochette, eh bien, c'est la bonne américaine, bien en chair, avec les joues gonflées au pudding et au McDo. Et puis après, elle a toujours son petit bonnet de laine sur la tête pour faire valoir que, eh bien, nous, aux États-Unis, on mange bien, on est bien campé sur nos jambes, on tient la route. Mais lorsqu'elle prend le micro pour chanter, c'est une autre paire de manches. Et elle n'est pas du tout manchotte dans ce cas-là. Elle s'est entourée, il faut dire, de grands musiciens, parmi lesquels le trompettiste Claudio Roditi, et puis aussi à la batterie, le vétéran Grady Tate, qui a joué avec Miles Davis, notamment à Montreux, et qui lui va apporter donc sa voix pour cette composition bluesy de Nancy Marano et je ne sais plus quel est l'autre compositeur, Baby, Don't You Kilt Now.
Every every kiss I take
is a piece of cake.
Is a piece of cake.
And so give me a sample. What's your first mistake?
'Cause I know when a little tastes like more. Take my pay from me.
Christmas Day for me.
And go anywhere you want, except away from me.
Quit tomorrow noon,
or at 9 o'clock, the 5th of June. But baby,
de la suavité du style et vraiment un grand talent, celui de Nancy Marano. Alors l'album s'appelle Magic, et c'est vrai que c'est magique quand on fait la différence entre le physique de cette dame et la voix qu'elle a. Et puis après, eh bien, difficile à trouver parce que elle a dû le faire sur son propre label qui s'appelle donc Nancy Marano Records. Je pense pas qu'il soit distribué en France pour l'instant. Je ne l'ai pas encore vu dans les bacs des disquaires, à vrai dire. Mais bon, peu importe, c'était dans l'exclusivité de Divergence FM, une découverte donc de par ici des sorties. Et puis maintenant, nouveauté avec le nouvel album de Fred Palem. Fred Palem, vous le savez peut-être, c'est donc le bassiste, chef d'orchestre du Sacre du Tympan. Le Sacre du Tympan, vous l'avez peut-être écouté sans le savoir si vous avez assisté ou écouté tout au moins les Victoires de la Musique en 2003 et 2004, il vient de produire un album qui a pour titre Soundtracks. Alors, à la vue de la pochette, on pourrait penser qu'il s'agit d'extraits de musique de film. Eh bien, pas du tout, parce que Fred Palem a donc imaginé une bande son, comme pour une bande dessinée, mais il n'y a pas de film, en fait. Donc, ne cherchez pas à faire un rapport avec un titre de film, il n'y en a pas. Simplement, il s'est nourri pendant les années 70, il s'est gorgé de films avec les Western Spaghetti, la musique d'Ennio Morricone et également bien d'autres thèmes musicaux qui lui étaient restés en mémoire. Il a voulu retranscrire cela et comme il est vraiment gorgé de pop, de rock, de jazz et d'autres musiques, ça donne une musique un peu déroutante. Laissez-vous emporter avec ce titre au son très italien, « Te si per lei nel giardino ».
Thank you.
Seperilei nel Giardino, dont extrait de l'album de l'orchestre Le Sacre du Tympan. L'album s'appelle tout simplement Soundtracks. Et c'est vrai que si vous avez des vidéos à sonoriser, croyez-moi, il y a de quoi faire. Et puis après, la distribution s'est confiée. Je crois que c'est l'autre distribution. Voilà, voilà. Alors, on va faire la part belle au bassiste. On va retrouver un autre, mais celui-ci est américain. Il a pour nom Chris Lightcap. Il n'est pas très connu parce qu'il n'a fait que 3 albums. Le premier était paru sur le label de mon ami Jordi Pujol, Fresh Sound New Talent. Et ici, eh bien, il vient de s'entourer de prestigieux musiciens pour aller enregistrer sur un label portugais. Le label s'appelle Clean Field. C'est un label qui est plutôt en principe dédié au jazz assez contemporain. Ici, ce n'est pas du tout le cas. C'est un jazz moderne avec un univers bien particulier, celui donc du bassiste Chris Lightcap. Il a été quand même l'élève de Milt Hinton, ce qui veut dire un peu quand même qu'il a des bases solides. Compagnon des plus grands, de James Carter à Dave Littman, en passant par John Scofield ou Tom Harrell. Eh bien, il a reçu donc se créer un univers bien à lui, entouré de musiciens aussi prestigieux que le batteur Gerard Cleaver, le batteur qui monte aux États-Unis, et puis on va dire du chevronné Tony Malabi. On va le retrouver dans le thème Plateforme, qui est la première plage de l'album paru chez Clean Field et qui a pour titre, j'ai oublié le nom, excusez-moi, je vais me s'abreuver. Deluxe, oui, ça représente une voiture américaine sur la pochette, donc une espèce d'Oldsmobile, je pense. Mais je ne m'y connais pas sans voiture, il faut dire la marque en n'ayant vu que le devant. Donc l'album s'appelle Deluxe avec Chris Lightcap, Big Smart, c'est le nom de l'orchestre qui l'a réuni. Donc ce thème Plateforme.
Thank you.
Eh bien, voilà, c'est donc avec cet extrait de l'album paru chez Clean Feed du bassiste Chris Lightcap et ce thème plateforme se termine par ici les sorties. L'émission quotidienne de jazz de Divergence FM, émission que j'ai le plaisir de vous présenter, est réalisée grâce à la collaboration technique d'Antoine Omanette. On va se retrouver demain pour une nouvelle émission à nouveau avec l'intégrale Miles Davis, donc les premières séries des fameux albums Prestige de 1954. Et puis aussi, je vous l'avais promis, nouveauté de notre bassiste français Stéphane Kéréki, avec notamment le pianiste John Taylor. Tout ça, ce sera pour demain. Pour l'heure, vous allez retrouver donc, suite à cette émission, une présentation des différents concerts dans les salles rock de Montpellier et les alentours. Émission présentée par Jacques Bonnet et Joe Romano.
Divergence FM 93.9.